France Info.
Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info, l'édition spéciale. Elle se poursuit bien sûr avec vous, Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Gilles Bornstein est là également avec Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour Nathalie Kosciusko-Morizet.
Bonjour.
Premier tour donc des élections législatives hier, deux faits notables. La victoire dans ce premier tour, nous verrons bien ce qu'il en sera au second, du mouvement d'Emmanuel Macron en marche. Avant, j'aimerais vous faire commenter le résultat de l'abstention, 51% d'abstention. Plus d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour ces élections législatives. Ça inquiète évidemment tout le monde. De trouver des réponses à ce problème-là n'est pas facile.
Vous avez raison. C'est la suite d'une séquence qui dure maintenant, dans laquelle les Français manifestent leur insatisfaction vis-à-vis des formes actuelles de la vie politique. Il y a plusieurs façons de la manifester. Il y a ceux qui vont voter pour les extrêmes. Il y a ceux qui, à un moment, faisaient nuit debout. Avec un bouillonnement de réflexion sur... Il y a ceux qui inventent sur Internet des idées de démocratie directe, et puis il y a ceux qui sont dans la déception et qui s'abstiennent. Je mets pas toutes ces manifestations-là sur le même plan, mais je dis que pour moi, toutes d'une manière ou d'une autre, elles manifestent une insatisfaction vis-à-vis des formes contemporaines de la vie politique. Et d'ailleurs, je vois dans le résultat aussi un message à ce propos, c'est-à-dire que les partis traditionnels sont balayés, mais clairement balayés.
On va en reparler, bien sûr.
Oui, on va en parler. Et finalement, Emmanuel Macron réussit ça, qui faisait partie un petit peu de sa promesse, mettre fin au système des partis traditionnels. Sauf qu'en fait, il met surtout fin aux partis qui étaient ceux de ce système-là. Mais il les remplace par quoi ? Ben aujourd'hui, par un parti qui, à mon avis, fonctionne pareil. Et donc, il reste quelque chose à inventer.
La République en marche fonctionne comme les autres.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une insatisfaction et elle existe, elle se manifeste, notamment sur l'abstention vis-à-vis des formes actuelles de la vie politique. Elle vient frapper de plein fouet les partis en place. On voit bien ce qui se passe. Là, il y a un coup de balai terrible. Mais est-ce qu'on a pour autant trouvé une forme nouvelle de la vie politique? Moi, je ne crois pas, parce que je trouve que la République en marche, en fait, fonctionne de la même manière.
Est-ce que vous voulez dire fonctionne pareil, sectaire? On sent une accusation derrière votre propos.
Non, je veux dire, le terme accusation n'est pas adapté parce que je pense qu'ils ne sont pas pires que les autres. Ce que je dis seulement, c'est que
ils ne sont pas mieux non plus.
Oui, mais voilà.
D'accord.
En fait, je ne voudrais pas. La France traverse une période de, il y a à la fois beaucoup de déceptions, sentiments de gâchis et de grandes espérances. Il faut pas abîmer les espérances. Il y a une vraie espérance sur le renouvellement de la vie politique. Je trouve pas que ce qui se passe autour du Parti En Marche, qui sont beaucoup de mouvements de cooptation. C'est-à-dire on dit aux gens, vous candidatez sur Internet, et puis on voit bien les échos des comités de terrain, la façon dont sont faits les choix, il y a beaucoup de cooptation. On nous dit, on va faire respirer la société française, on va mobiliser toutes les énergies, on va entendre toutes les voix, et on part vers un truc hyper hégémonique, dans laquelle finalement le premier geste, ce sera le garde à vous avant d'être celui de l'embrassade.
Il y a pas un poil d'aigreur quand même là, je vous entends, Nathalie.
Non, je vous donne un poil d'aigreur. Vous savez, alors là, on est dans une situation.
Alors pourquoi
faut être un peu de la d'aigreur.
Pourquoi est-ce que Fabienne évoque de l'aigreur? Parce que vous étiez candidate à Paris.
Mais j'y suis toujours, Jean-Michel.
Vous avez raison. Vous êtes candidate dans une circonscription qui regroupe une partie du 7e, du 6e et du 5e arrondissement à Paris. Une circonscription qu'on a toujours dit imperdable pour votre parti, les Républicains. François Fillon était député sur cette circonscription-là, vous vouliez le remplacer, vous arrivez en seconde position, assez loin derrière le candidat de la République En Marche qu'on va écouter. Il s'appelle Gilles Legendre, c'est un ancien journaliste, il n'a aucun passé politique et justement, dit-il, c'était ma force. Écoutons Gilles Legendre.
Qu'est-ce qui a marché pendant ma campagne? C'est quand je racontais ma vie professionnelle et qu'il se rendait compte que je n'avais pas fait de politique avant de rejoindre En Marche il y a un an. Et la deuxième chose qui me paraissait presque banale quand je la proposais aux électeurs, mais qui pour moi est une évidence, c'est quand je leur disais « je serai leur député à temps plein ».
Pas de passé politique, je serai député à temps plein. C'est une des clés du succès d'En Marche?
Je crois que le succès d'En Marche, il est lié tout simplement au fait que il y a une vague nationale. Et je crois que les candidats d'En Marche, et ils sont nombreux, qui mettent de la modestie dans leur score en disant « bah oui, les Français ont envie de donner une majorité au président de la République et j'ai été l'instrument de ce désir-là », sont dans le vrai. les Français ont envie de donner une majorité au président de la République. Mais moi,
ceux
ce soir,
qui ont voté.
Attendez, mais moi ce soir, voilà, ce soir, j'ai, enfin, ce soir, ce matin, j'ai un message.
Nous sommes en direct.
Et oui, merci. La
vie a été courte. On est indulgents.
Donc, ce matin, j'ai un message. Et c'est un message qui, je pense, est celui de la campagne du second tour. Vous savez, il y a deux campagnes très différentes. Il y a celle du premier tour, celle du second tour. Celle du premier tour, c'est quoi son histoire? Les Français ont voulu donner une majorité à Emmanuel Macron. Pour moi, ça fait aucun doute. D'ailleurs, j'aurais pu vous le signer avant, comme beaucoup, on l'entendait de partout. Les Français, quel qu'ait été leur vote à la présidentielle, ont voulu donner une majorité à Emmanuel Macron. Et comment en serait-il autrement? On a perdu 5 ans avec Hollande. On n'a pas envie de reperdre 5 ans. C'est ça qu'ils nous disent. Déçu, pas déçu par le résultat de la présidentielle. De toute façon, on ne veut pas reperdre 5 ans. Il faut se débrouiller pour que ces 5 années soient
utiles. Ça, c'est l'histoire du premier
ça,
tour.
Ça, c'est l'histoire du premier tour.
Alors, l'histoire du second tour, d'après vous?
Elle est différente. Parce que, au soir du premier tour, qu'est-ce qu'on voit? La majorité absolue, elle est là. Il l'a. Il y a 577 députés à l'Assemblée. La majorité absolue, elle est donc à 290. Hein, pardon, je fais ma polytechnicienne.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour qu'on fait ça.
Ça, c'est une phrase qu'on entend beaucoup. Hein.
Non, mais pardonnez-moi, mais bon.
Il a raison.
C'était ma façon à moi de.
C'est la mienne.
Donc 290.
Donc 290, c'est la majorité absolue. Et là, on nous prévoit plus de 400. C'est-à-dire plus de 100 d'avance par rapport à la majorité absolue. Donc on n'est même plus dans la majorité absolue, on est dans la majorité écrasante. Et l'histoire du second tour, c'est plus de répondre à cette question « Est-ce que vous voulez donner une majorité à Emmanuel Macron ?» C'est de répondre à la question « Est-ce que vous voulez qu'il y ait encore quelques voix libres et indépendantes à l'Assemblée nationale ?» Dans ce flot, ce grand mouvement qui va être une homogénéité qui
Et vous pourriez être une de ces voix libres. C'est ainsi que vous définissez.
Moi, c'est l'histoire de ma vie politique, si vous voulez, ce voix libre indépendante. Ça m'a causé suffisamment de problèmes dans ma propre famille politique. D'ailleurs, vous vous en souvenez peut-être, pour pouvoir le dire aujourd'hui, en effet, oui.
Mm. Vous pensez que ce sera un mouvement, un bloc homogène? Ça veut dire que ce sera la voix du patron et rien d'autre, en fait. Il ne va rien se passer à l'Assemblée nationale. Tout le monde comme un corps, comme un seul homme, comme
vous
des bons soldats.
C'est pas, je ne fais pas de procès aux uns et aux autres. Je pense que chacun de ceux qui sont là, candidats, en passe d'être élus, a envie d'apporter quelque chose dans le collectif et ce sont le talent et les moyens de le faire. Simplement, il y a des réalités sur le mode de fonctionnement des assemblées, sur tenir tête à son groupe politique, tenir tête à son parti politique. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Je l'ai fait sur le Nini, je l'ai fait sur les OGM, je l'ai fait sur les questions d'écologie, parfois sur la société du numérique, je l'ai fait sur un certain nombre de sujets, je le dis avec une certaine gravité. Tenir tête, c'est pas facile. C'est pas facile et ça nécessite une forme d'autonomie politique qui n'arrive pas comme ça. 400 députés qui n'ont aucune histoire politique, aucune autonomie politique, qui doivent tout en politique à Emmanuel Macron et au parti En Marche, parce qu'il y a quand même un parti, si vous voulez. On est tous sur la personnalité, mais il y a quand même un parti derrière. Je ne crois pas, non, que ça fera des voix libres et indépendantes. Et je pense que c'est un problème. C'est un problème parce que si le débat n'a pas lieu à l'intérieur de l'Assemblée, il a lieu dans la rue. C'est un problème parce que c'est plus une Assemblée s'il n'y a pas de débat, c'est une chambre d'enregistrement.
Et on se retrouve dans une minute pour en reparler. 8h41, Victor Maté pour l'essentiel.
La République En Marche qui se dirige donc vers une majorité absolue à l'Assemblée dimanche prochain avec plus de 400 députés. Le premier tour des législatives hier, largement dominé par le mouvement d'Emmanuel Macron. Plus de 32% des voix devant Les Républicains et l'UDI, 21,5%. Le FN est à 13,2%. La France Insoumise à 11%. Le PS et ses alliés, 9,5%. Autre chiffre totalement inédit, moins d'un électeur sur deux seulement aux urnes. L'abstention, c'est une première depuis 1958, dépasse les 51%. Succès donc d'En Marche et déroute du PS. Le patron des socialistes, Jean-Christophe Cambadélis, est éliminé, tout comme le candidat à la présidentielle, Benoît Hamon. Des socialistes sont qualifiés, mais en ballotage défavorable à l'image de Najat Vallaud-Belkacem. Certains sont en tête, Stéphane Le Foll, Marisol Touraine, mais ils n'avaient pas de candidat En Marche en face. Du côté du gouvernement, la quasi-totalité des ministres, Richard Ferrand, Christophe Castaner ou encore Marielle de Sarnay sont en ballotage favorable. Avant le second tour, le Front National est en net recul par rapport à la présidentielle. Il peut encore espérer, en théorie, une dizaine de députés. Marine Le Pen, Alain Beaumont ou Florian Philippot à Forbach sont en tête. Enfin, Jean-Luc Mélenchon est bien parti à Marseille où le PS historique Patrick Mennucci est éliminé.
France Info. C'est David Kosciusko-Morizet qui est avec nous ce matin dans cette spéciale législative sur France Info. Et la question, c'est vous, Gilles Bornstein.
quelle attitude adopter pour les députés LR qui seront élus, pour les candidats LR qui seront élus à l'Assemblée nationale dimanche prochain? Il y en a un, par exemple, c'est Thierry Soler, en bonne voie pour être élu à Boulogne-Billancourt. Et lui, il le dit clairement, il votera la confiance à Emmanuel Macron. On l'écoute, c'était hier sur France 2.
Si on ne vote pas la confiance, ça veut dire voter la défiance et faire tomber le gouvernement. Ça serait stupide. Et moi, je l'ai dit très clairement aux électeurs de Boulogne-Billancourt. En votant pour moi, ils votent pour quelqu'un qui sera constructif, qui votera la confiance au gouvernement. Ça ne veut pas dire un chèque en blanc. Mais... ça veut dire que toutes les réformes, Léa Salamé, toutes les réformes qui iront dans le bon sens, on les votera.
Élu, voteriez-vous la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe?
Moi, j'aurais une proposition un peu différente. Y a trois possibilités. Il y a se mettre dans une situation de blocage, à ne pas voter, à ne voter rien, à dire on n'a pas la majorité, donc on attend 2022. J'ai toujours dit ce que j'en pensais. Au début, la campagne législative avait été lancée par LR sur ce plan-là. Je pense que c'est une erreur. Une erreur pour les raisons que je disais tout à l'heure. On a perdu 5 ans avec Hollande, on ne veut pas reperdre 5 ans. Donc il faut trouver le moyen d'être utile. Il y a deux façons d'être utile. Il y a ce qu'on pourrait appeler la coalition, qui en effet, on se met ensemble et puis on voit. Et il y a une autre manière qui est plus proche de moi, ce que j'appellerais l'Union nationale, qui est de dire, on se met d'accord sur un programme de réforme urgente, limité, et on se donne un
temps...
C'est
la grande coalition.
Non, justement. On se donne un temps limité. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur un programme limité et on se donne une durée limitée pour pouvoir les mettre en œuvre. Et on les met en œuvre ensemble. Et à l'issue, il y a une clause de revoyure. Pourquoi je fais une différence? Parce qu'en fait, si vous faites la grande coalition sans limite de durée et sans limite de sujet, vous vous retrouvez aussi bien à voter la réforme du droit du travail, je suis pour. La loi de moralisation de la vie publique, je suis pour. J'ai des amendements pour aller plus loin. Et la hausse de la CSG, je suis contre. Donc moi, je voudrais un programme commun, en quelque sorte. J'aime pas le mot programme commun, il est connoté dans l'histoire politique. Mais voyez, un projet à mettre en œuvre sur une durée limitée, dans lequel il y a les réformes sur lesquelles on sait qu'on peut se mettre d'accord et dont la France a besoin. Et on exclut clairement de ce programme commun, de ce projet, les choses sur lesquelles on a des points de désaccord. On a des points de désaccord sur des propositions de réforme de scrutin. On a des points de désaccord sur la question fiscale. J'insiste, on a des points de désaccord sur la question fiscale. Le programme d'Emmanuel Macron aujourd'hui n'est pas équilibré financièrement. Il y a d'un côté 60 milliards de nouvelles dépenses, très documentées, qui sont autant de promesses qui ont été entendues par les intéressés. Et de l'autre côté, seulement 50 milliards d'économies. Donc il y a déjà 10 milliards de différentiel qu'il va falloir financer. Tout ça sans parler de résoudre le déficit, mais de résoudre la dette, rien du tout. Les 10 milliards, c'est 2,5 de CSG.
On voit bien.
Mais de toute façon, oui. Il y en aura plus que 10 milliards de différentiel. Parce que les nouvelles dépenses sont très documentées.
Trop de détails.
Mais les économies le sont très peu.
On voit bien à votre proposition, à votre positionnement, tel que vous l'exposez là, Nathalie Kosciusko-Morizet, que ce que vous définissez, c'est la difficulté pour les Républicains à trouver leur place dans... la carte politique telle qu'elle se dessine, parce qu'Emmanuel Macron, au vu du premier tour, n'a absolument pas besoin de vous. Donc, pour revenir à la question simple, en faisant le point sur les accords et les désaccords que vous avez avec La République En Marche,
confiance,
vous votez ou pas la confiance?
Mais je vous dis, ce que je souhaite, moi, ma proposition, et j'attendrai une réponse sur... Mais attendez.
Mais elle n'a aucune chance d'être recueillie telle que vous la formulez.
Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je le prends au mot, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron nous dit qu'il veut faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement... C'est pas se glisser dans les pas de tous ceux qui ont déjà animé la Ve République. Donc c'est pas que des yes or no question. Faire de la politique autrement, pour moi, c'est se donner les moyens, par exemple, d'une union nationale. Je le dis, c'est pas... Parce que là, en fait, vous avez l'air de dire... Vous retombez sur les anciennes questions. Bah oui, alors la question, elle se pose toujours en début de mandature.
C'est pas les anciennes questions, c'est les questions qui se posent. Un jour, les députés auront à se prononcer sur la
confiance. Moi, je vous dis que je prends au mot. Il dit qu'il veut faire autrement.
C'est les institutions.
Oui, je prends au mot. Il dit qu'il veut faire autrement. Pour faire autrement, pour moi, aujourd'hui, il faut sortir de la yes or no question. Soit t'es tout avec moi, soit t'es tout contre moi. Et il faut accepter, par exemple, qu'on se mette d'accord, je vous dis, sur une durée limitée, sur un programme limité. Et vous savez quoi?
Vous admettez que
je pense que ce serait extrêmement dynamique pour la démocratie que de se mettre d'accord sur une durée limitée.
Donc ça veut dire qu'il faut négocier avant qu'on en arrive au vote de confiance.
Ou alors, faut plus qu'il y ait de vote de confiance.
C'est ça, vous
allez. Oui, mais il faut négocier avant qu'on arrive au vote de confiance. C'est exactement ça.
Vous allez aller négocier.
Mais je vais plus loin sur un sujet très actuel. La réforme du Code du travail.
Oui.
Moi, je fais partie de ceux qui ont été extrêmement déçus qu'on n'ait pas pu aboutir dans la dernière mandature. Quand j'avais vu sortir la première version de la loi El Khomri, j'avais rédigé une tribune, co-signée par 15 députés Les Républicains, publiée, pour dire si on nous propose cette loi-là, on la vote. Parce qu'on la trouvait bien et qu'on voulait, quelque part, obliger le gouvernement à tenir. Sauf que le gouvernement, il a pas tenu. Il a cédé très vite, sous la pression des uns des autres de la rue. Il a modifié la loi, finalement, il n'y avait plus rien de ce qui intéressait les PME.
Et c'est même pour ça qu'Emmanuel Macron s'est présenté.
Attendez, on ne nous l'a jamais proposé, puisqu'ils ont fait le 49-3. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des sujets comme ça qui sont durs, indépendamment de la question de savoir si vous avez une majorité ou pas. Sur la réforme du travail, le problème, il n'est pas entre nous et La République En Marche. Le problème, il sera entre nous tous ensemble, parce qu'en fait, on sera d'accord sur ce sujet-là, et les syndicats. Voilà un sujet sur lequel vous dites qu'Emmanuel Macron n'a pas besoin.
Et un peu la gauche à l'Assemblée
moi,
aussi.
Moi, je pense qu'on a besoin de... Oui, un peu la gauche à l'Assemblée. Mais moi, je pense qu'on a besoin sur des sujets comme ça qui concernent tous les Français. Tout le monde est concerné par le Code du travail. Je pense qu'on a besoin de rassembler large, indépendamment de la question de savoir si vous avez ou pas une majorité à l'Assemblée nationale.
Le rapport de force vous est défavorable pour le second tour, puisque le candidat de La République En Marche a atteint 41% des voix. Vous comptez peut-être pas, sur le ralliement de certains candidats. La droite était très divisée dans ce premier tour. Il y avait deux autres candidats à côté de vous, dont Henri Guénot, qui a fait une sortie remarquée hier soir sur la chaîne d'information continue BFM. Il a parlé de l'électorat de la circonscription dans laquelle vous étiez présente, Nathalie Kosciusko-Morizet, comme on ne parle jamais d'un électorat. On écoute Henri Guénot.
L'électorat qui a voté dans la deuxième circonscription de Paris aujourd'hui est à mes yeux à vomir. À vomir, hein, vous m'entendez bien, c'est-à-dire espèce de entre les bobos d'un côté qui sont dans l'entre-soi, puis espèce de bourgeoisie traditionnelle de droite, c'est celle qui va à la messe, qui envoie ses enfants au catéchisme, puis après qui vote pour un type qui pendant 30 ans s'est arrangé à tricher par tous les moyens. Bon.
Il a fait un peu plus de 4% de voix, Henri Guénot. Quand il dit ça, on n'imagine pas du tout, enfin, il va pas appeler à voter pour vous maintenant.
Vous savez, moi, j'ai jamais compté ni sur les états-majors, ni sur les partis politiques, ni sur les états-majors des partis politiques. Je compte sur les électeurs, je compte sur les Parisiens. Je compte sur quelque chose qui est inscrit très profondément dans l'ADN de Paris, qui est le goût pour la parole libre. Et je leur dis aujourd'hui, il va y avoir plus de 400 députés en marche. Est-ce que vous avez besoin d'un de plus ou d'un de moins? Ou est-ce que vous avez besoin d'une parole libre qui a déjà su démontrer par le passé?
Oui, c'est un peu terrible, mais c'est au fond une parole libre, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, je suis pas sûre que la parole libre, ça doit aller jusqu'à l'insulte. C'est-à-dire que...
On est d'accord, mais...
Moi, je suis pas... Enfin, je suis évidemment pas d'accord avec... Je désapprouve tout à fait ce que dit là Henri Guénot. On peut avoir des déceptions, si vous voulez, mais les déceptions politiques, elles doivent pas se retourner en insultes contre les électeurs, c'est tout. La déception, elle est légitime, elle est humaine, elle est voilà, mais ça se retourne pas en insultes contre les électeurs, ça, non.
Et à 8h50, aucune déception, mais Victor Matet pour une minute.
Macron en marche vers une majorité écrasante à la une du Figaro. En marche et loin devant pour Ouest France. Le coup de maître, titre Le Parisien. L'OPA pour Libération ou encore le risque d'une chambre bleu Macron pour l'Humanité qui parle d'une abstention majoritaire avec ce record sous la 5e République, une abstention à plus de 51%. Les résultats définitifs, le mouvement d'Emmanuel Macron, La République En Marche arrive donc très largement en tête. Plus de 32% des voix devant Les Républicains et l'UDI, le FN, la France Insoumise et le PS. Les socialistes en passe de perdre plus de 200 députés dont leur premier secrétaire Jean-Christophe Cambadélis ou Benoît Hamon, éliminé dès hier soir, tout comme Aurélie Filippetti ou encore Elisabeth Guigou. À droite, une centaine de sièges sont encore espérés. Les cadres appellent à ne pas confier tous les pouvoirs à un seul parti. Même message de la part de Jean-Luc Mélenchon en tête à Marseille. Patrick Mennucci est éliminé, la France Insoumise qui voit plusieurs de ses candidats qualifiés comme Alexis Corbière ou encore Éric Coquerel. Au Front National, Marine Le Pen en tête dans le Pas-de-Calais, Florian Philippot en Moselle, mais le parti recule très nettement par rapport à 2012 ainsi qu'à la dernière présidentielle. Enfin, du côté du gouvernement, seule Annick Girardin semble risquer sa place.
France Info. On est avec Nathalie Kosciusko-Morizet jusqu'à 9h sur France Info. Question Gilles Bornstein.
Deux élections consécutives perdues, j'entends au niveau national, pour votre formation Les Républicains, qui sont à rebâtir, à reconstruire. Est-ce que vous ferez, est-ce que vous en serez, est-ce que vous prendrez part à la reconstruction des Républicains?
Depuis quelques années maintenant, j'essaye de faire entendre dans Les Républicains la voix d'une droite moderne, ouverte, progressiste, pro-européenne. Une droite qui dit qu'il faut comprendre, s'intéresser aux transformations du monde, les comprendre et les anticiper pour ne pas les subir. Parfois, j'ai été très minoritaire sur mes positions, parfois finalement rejointe. Bon, c'est le rôle un petit peu des avant-gardes, de toute façon. Et je pense que cette voie-là, en quelque sorte, cette sensibilité-là, elle doit continuer à trouver à s'exprimer.
Sous quelle forme?
Je pense qu'aucun parti ne dépassera, ne survivra à cette élection dans sa forme exactement actuelle. Si vous voulez, les Républicains vont se transformer, comme j'imagine le Parti Socialiste va se transformer.
Le Parti Socialiste est mort. Ils vont se transformer. Donc chez les Républicains, est-ce que les Républicains sont morts? On parle du Parti Socialiste au passé.
Je n'aime pas le terme mort parce que ça a quelque chose de définitif. D'ailleurs, je ne sais pas.
Dépassé.
Bah, ils doivent être complètement transformés, ils doivent être métamorphosés, ils doivent être trouvant un mot. Si vous voulez, le terme mort laisse penser, pour moi, que le courant politique qui est derrière pourrait l'être. Comprenez-moi bien. Les courants politiques, les courants de pensée, ils ont une existence au-delà de nos personnes et au-delà des partis. Il y a toujours eu en France, et je souhaite qu'il y ait toujours une droite ouverte, une droite éclairée, une droite qui cherche à éclairer l'avenir. Je crois qu'elle existe, qu'elle existera demain. Est-ce que ce sera sous la même forme en termes partisans? Certainement pas. Mais les partis politiques, c'est un espace d'expression. Le jour où d'ailleurs ils réussissent plus à être un espace d'expression et ils deviennent une cellule, eh bien il faut briser les barreaux. Moi j'ai essayé régulièrement, quand je trouvais qu'on n'avait pas vraiment la place de s'exprimer, de desserrer les barreaux. Aujourd'hui, de toute façon, on est dans un paysage de vaste recomposition. Est-ce que ce sera le même parti ou est-ce que ce sera un autre demain? J'en sais rien, mais ce sera, j'en suis sûre, la même sensibilité politique, celle qui existe, encore une fois, celle d'une droite éclairée. Il n'y a pas de fatalité à ce qui est d'un côté une droite totalement conservatrice et de l'autre côté une gauche en mouvement, en fait. Il n'y a pas de fatalité à ça à travers l'histoire politique.
Et pour dire les choses très franchement, est-ce qu'il y a une place pour vous si vous n'êtes pas élu? Dans cette droite-là, dans ce parti-là.
Et ce parti-là, on vient de le dire, il est en pleine explosion. Donc, est-ce qu'il y a une place dans un truc en pleine explosion? Vous voyez, ça va
jouer. Donc, vous ne voulez pas de place là-dedans? Non, mais.
Il faut prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. On est dans un truc en pleine transformation. Je ne sais pas quelle sera ma place là-dedans.
Mais oui, justement,
c'est de toute façon de peu d'intérêt. Ce que je viens de vous dire, c'est que.
Mais si, un peu quand même.
Les sensibilités.
Parce qu'on sent bien que vous avez toujours envie de participer à la vie politique.
Mais ce que je viens de vous dire, c'est que les sensibilités, en fait, elles existent et il faut qu'elles trouvent à s'incarner au-delà des partis et d'ailleurs au-delà des personnes.
Mais tout simplement, même si c'est au-delà des personnes, que fait Nathalie Kosciusko-Morizet si elle est battue dimanche prochain?
Mais j'en sais rien, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est pas du tout dans mon tempérament d'aller cultiver les plans B. J'ai pas de plan B.
Ben justement,
vous avez envie de continuer à faire de la politique.
J'ai toujours pris beaucoup de risques en politique. Je suis allée faire la campagne de Paris à un moment où aucun des grands ténors de droite qui avait été sollicité, François Fillon, Jean-Louis Borloo, avaient déclaré forfait. C'est que ça devait pas être non plus si évident que ça. Je suis allée faire la campagne de Paris dans ce contexte-là. J'ai fait la primaire, ce qui était... Vous en souvenez compliqué. Aucun d'entre vous, d'ailleurs, ne pensait que j'aurais les parrainages. Je me suis battue tout l'été comme un chien pour avoir les parrainages. Je les ai eus. J'ai toujours pris beaucoup de risques. D'ailleurs, j'ai pris tellement de risques que j'ai démissionné de la fonction publique par cohérence, parce que je trouvais que le statut de fonctionnaire ne devait pas servir d'assurance vie, en fait, quand on faisait de la politique et que, ceux qui venaient du privé l'avaient pas. Et donc, il y avait un moment, au bout d'un certain nombre d'années, où il fallait démissionner. D'ailleurs, ça fait partie des amendements que j'aurais voulu apporter sur la loi de modernisation sur la vie politique.
On vous sent un peu lasse. Il y a de quoi, on vous sent un peu lasse, quand même. Vous êtes un peu lassé, fatigué du combat politique.
Même pas de vous, Jean-Michel Apathy.
C'est dit gentiment.
Moi aussi, ça me touche.
On changera de numéro de téléphone après l'émission.
Pas du tout, je pense qu'on vit un moment de très grands bouleversements sur lequel il faudra qu'on prenne un peu de recul. Tous d'ailleurs, pardon, vous me sentez un peu lasse, mais moi je vous sens parfois, je ne dis pas personnellement, mais je suis insatisfaite vis-à-vis de ce que je dis dans la presse, puisqu'on est chacun à porter des jugements sur les autres. Je trouve que... Mais je comprends pourquoi, c'est un moment de grande transformation. Il n'y a pas aujourd'hui d'immenses éditorialistes dont la pensée fulgurante ferait qu'on l'écoute le matin et on se dit, voilà, là on a compris, il a raison.
Vous prêtez beaucoup de vertu aux éditorialistes.
Je ne sais pas s'il y a eu un jour d'aussi grande transformation que ça. Ce que je veux dire simplement, ne le prenez pas personnellement, c'est une autocritique aussi. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'on vit un moment de grande transformation. Et je pense que personne ne peut prétendre savoir ce que ça va vraiment devenir et se projeter de manière très honnête, construite, définie. Voilà, dans deux ans, voilà ce que je ferai.
Bien sûr, bien sûr.
Question très simple.
Et si Jean-Michel Apathy peut le faire, ça m'intéresse et je suis sûre que ça intéresse les téléspectateurs. Allez-y,
tout
Jean-Michel.
Tout à coup, je suis très là, moi aussi. Tout à coup. Accablé par la tâche qui est devant moi.
Mais faut pas s'essayer accablé parce qu'il y a des trucs graves dans la vie. Quand même.
Beaucoup dans votre génération, dans votre parti politique, ont arrêté la politique. Luc Chatel arrête, Benoît Apparu arrête, ils vont faire autre chose. Ouais. Est-ce que l'avenir immédiat de Nathalie Kosciusko-Morizet est dans la politique?
Non mais attendez, vous êtes bien sympa. Moi je suis dans un entre-deux-tours d'élection. J'ai pas du tout renoncé. Sinon je serais pas ce matin sur votre plateau, je suis en train de faire autre chose. Hein. Donc là je suis en train de me battre pour mon deuxième tour. Et je pense
vous savez
que,
pas répondre, hein,
et je pense que maintenant que les Français, les Parisiens, les électeurs ont la majorité qui voulait donner à Emmanuel Macron, ils peuvent s'intéresser à d'autres enjeux. Et je leur propose un enjeu. Faites entendre une voix libre et indépendante à l'Assemblée nationale.
Voilà. Merci et à bientôt.
Merci
Nathalie
à vous.